Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Vous écoutez
Dutrisac,
Cube Radio.
Avant de joindre notre invité, un mot avec Marie-Pierre Caillé. Marie, on vient d'avoir les nouveaux chiffres.
Oui, qui viennent de sortir de la santé publique. Donc, aujourd'hui, un peu moins de cas qu'hier, 489 nouveaux cas. Par contre, il y a une nouvelle hausse des hospitalisations. J'ai pas eu le chiffre assez rapidement, là, mais on va y revenir de toute façon tout à l'heure avec Alexandre Dubé. Un seul décès aujourd'hui, mais quand même.
Le nombre de cas a baissé, mais là, le nombre de cas d'hospitalisation augmente.
Oui, c'est ça. Donc, les urgences, c'est les...
Bon, c'est la deuxième vague. On va en parler tantôt à midi 15 avec la docteure Mylène Drouin, qui est la boss de la santé publique à Montréal. D'ici là, on va parler avec David Hertel, qui nous présente Journée de ministre. C'est aux éditions VLB. Monsieur Hertel, bonjour.
Bonjour, monsieur Dutrisac.
Bon, ben merci d'être avec nous.
Là, vous,
pour rappeler aux gens, là, parce que là, ça fait un bout qu'on vous a pas vu le joli minois. C'est vous avez été ministre de l'Environnement, grosso modo. Il y a un autre terme là, mais c'est trop long. Ministre de l'Immigration. Vous avez aussi dans le livre, on l'apprend, puis on vous nous le rappelez brièvement attaché politique du premier ministre Bernard Landry, et aussi PDG la régie des installations olympiques. Pourquoi sortir un livre maintenant, si ce n'est que pour vous présenter à la mairie de Montréal?
Oui, c'est pas du tout une question chargée. Hein?
Pas
je m'attendais surtout pas à celle-là vite de même, là, mais bon.
Tant qu'à y être.
Non, mais premièrement, pur hasard, parce que ce projet de livre-là, je l'ai commencé avec VLB, puis mon éditrice, Mélika Abdelmoumen. Dès que j'ai quitté la politique, j'ai choisi de pas me représenter, vous souviendrez, aux élections d'octobre 2018. Et le projet est né là. Véritablement, c'est des conversations que j'avais avec plusieurs personnes qui étaient dans mon entourage, des amis, des proches, et qui me disaient le même commentaire revenait tout le temps, c'était si seulement les gens savaient le genre de journée que vous faites, vous, en politique. Mmh. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de livres qui s'écrivent en politique, mais il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, moi, j'en ai pas vu beaucoup où on parle plus du quotidien, là. Tu sais, c'est quoi
des cartables.
Journée? Ouais. Ouais, exactement, les cartables, entre autres, oui.
Ouais, ouais.
Alors, c'est ce projet-là, c'est ça qui est né, puis le livre devait sortir au printemps. Et évidemment, le printemps, on sait tout ce qui s'est passé. Alors, voilà, c'est une pure coïncidence.
OK, donc, vous ne présentez pas.
C'est pas quelque chose que je considère à l'heure actuelle. Vraiment.
Parce que dans votre livre, là, tout le long, là, puis je vais utiliser un verbe, là, mais comprenez ce que je veux dire, là, vous râlez à propos de l'horaire, puis des rendez-vous, puis de, tu sais, d'espèce de discipline que vous devez avoir, puis à l'heure que vous levez, puis les lunchs qu'on vous sert, puis que vous essayez de manger comme du monde. Je pense que vous avez pris un peu de poids pendant que vous avez fait de la politique, vous.
Vraiment, non, mais c'est vrai.
Sérieusement,
j'ai pris une cinquantaine de livres pendant la politique.
Ah oui, hein?
Heureuse. Ah oui, non, mais c'est parce que des fois, le genre de journée qu'on a, ça arrive, premièrement, bon, quand on est à Québec, tu sais, on mange à la course, on mange sur un coin de table, on fait pas toujours très attention, la discipline n'est pas là, mais aussi, des fois, ça va arriver là que ce soit un midi ou un soir, je vais aller quelque part pour manger l'entrée, à un autre endroit, je vais manger le plat principal, puis je vais aller prendre le café à une troisième place.
Ouais.
C'est vraiment arrivé, ça. Et c'est pas la meilleure façon d'être en forme, le stress, les longues heures. Puis c'est, je râle, mais tu sais, bon, faut bien faire attention, je m'en plains pas, mais c'est ça le beat, c'est ça le rythme de vie d'un politicien, c'est un peu ça que je voulais montrer, parce que tu sais, c'est quand même important de montrer comment notre démocratie fonctionne, là. Qu'est-ce qu'on fait, puis comment ça roule.
Oui, oui. Puis on lit dans ce livre-là, David Hertel, là, Journée de ministre, puis non, mais j'utilise râler, là, mais vous démontrez là les rendez-vous auxquels vous devez assister, les commissions parlementaires, puis à un moment donné, votre mère tombe malade, là, vous prenez du temps pour elle, le garde du corps qui vous suit, il est toujours toujours dans vos shorts, là, vous êtes pas capable de vous en défaire. Le souper avec votre copine, là, où on commence à dire que vous vous comportez comme un, tu sais, comme un malotru, là, je sais pas trop, là, un gars sur le party. C'est le livre là-dessus, là, c'est le day-to-day, là, le quotidien d'un ministre.
Oui, c'est ça. Alors, ça commence avec le réveil à 4h30-5h. Là, tout de suite, la revue de presse, l'actualité. Et là, ça part. Et ça part sans arrêt. Et où qu'on soit, pis on, ça s'arrête pas. Que ce soit les fins de semaine, qu'on soit en vacances, peu importe. On commence, puis là après ça, ben quand on est à Québec, faut s'assurer d'avoir les lignes de presse qui sont envoyées au bureau du premier ministre pour 7h. Fait que ça veut dire qu'avant 7h, faut avoir parlé à son équipe, parfois avoir parlé à des fonctionnaires. Et des journalistes comme vous, hein, vous savez, vous avez des questions, puis les premières entrevues peuvent commencer tôt le matin, peuvent continuer durant la journée. On s'est déjà parlé quelques fois, justement, avec, dans une autre vie. Mais le fait est que on a un cycle qui arrête jamais. Puis à travers ça, ben on a les rencontres de travail, les rencontres avec les collègues, les rencontres avec les fonctionnaires, la période de questions, l'opposition. Et les commissions parlementaires, et ça se poursuit jusque dans la soirée, et ça n'arrête pas, c'est un fil continu, c'est une pression continue, puis c'est toujours nous personnellement qui sommes de l'avant, et c'est ça que j'essaie de faire ressortir, c'est vraiment comment on vit ça de l'intérieur.
Ouais. On constate aussi, David Hurtel, que dès la naissance, dès tôt, là, vous êtes bi, là. Vous frappez des deux bords, là. Vous avez un père, vous avez un père indépendantiste, vous avez une mère qui est plutôt straight, puis ça s'est reflété à l'âge adulte, là. Vous avez frayé un petit peu avec le PQ, mais vous êtes un bon liberal.
Ben j'ai commencé liberal, puis quand j'étais jeune, j'ai commencé à la commission jeunesse du Parti libéral. Mais c'est sûr que moi j'ai grandi vraiment, tu sais, dans les grandes années là des passions de la fin des années 70, début 80, l'arrivée du Parti québécois, René Lévesque, Pierre-Éliott Trudeau.
Que vous rencontrez René Lévesque, là, vous le racontez dans votre livre, vous êtes avec votre père, puis vous en revenez pas parce qu'il connaît votre père, René Lévesque.
Oui. C'est ça, genre, moi j'en revenais pas, tu sais, on allait chercher le café, puis là, un matin, comme ça, un samedi matin, comme ça, moi j'avais 6-7 ans, puis là, on arrive devant l'épicerie, puis de l'autre côté arrivait, c'était Monsieur Lévesque, puis moi, bon, j'avais 6-7 ans, puis tu sais, c'était quelqu'un que je voyais, bon, évidemment, à la télé, tout ça, j'en revenais pas, puis là, juste au moment de rentrer, Monsieur Lévesque regarde mon père, il dit « Salut Yann ». Et moi, j'étais bouche bée, j'étais consterné. Je regarde mon père, je regarde M. Lévesque, j'en revenais pas. Hey, mon père connaît René Lévesque.
Mais votre père l'avait jamais dit, David Hurtel, en regardant une nouvelle, il dit, hey, je le connais, lui, à Tipoil.
Non, jamais. Puis, je veux juste pas non plus, là, il connaissait. Il l'avait déjà rencontré.
Mais
c'était pas un proche, là.
Mais assez pour le nommer, là.
Non, c'est sûr. Mais en même temps, non, mon père m'avait jamais dit ça. Et donc, moi, j'étais complètement consterné. Tu sais, un petit gars, là.
Ben oui, je comprends.
Moi, j'avais un mâchoire à terre. Ouais. Et c'était fascinant. Puis moi, j'ai été confronté à ça. Mon grand-père, du côté de ma mère, c'était un rouge de la vieille époque, rouge toujours.
Ah oui, vous avez trippé Pierre-Éliott Trudeau, là. Malgré les mensonges, malgré les fausses promesses, vous avez avalé tout ça, vous, là.
J'ai avalé tout ça, et puis après ça, ben après Meech, ben j'ai changé de côté. Puis après Meech...
Non, vous êtes bi en politique.
C'est ça, je suis comme beaucoup de gens. Hein,
ben, ah ouais.
Il y en a du monde qui a fait les deux bords.
Juge pas,
mais
là.
Après Meech, je suis devenu souverainiste, j'ai voté oui en 95. Bon. Puis je suis revenu au Parti libéral avec la Charte des valeurs, là, suite à la Charte des valeurs du PQ.
Ouais, parce que là, vous faites une sortie sur la laïcité. Vous êtes évidemment libéral, multiculturaliste. Faut pas imposer la laïcité. Vous êtes contre le... Tu sais, là, je l'ai lu, votre livre, là, tu sais. Puis là, je me dis, bon, c'est Philippe Couillard qui vous écrivait ça dans le dos, là.
Non.
Oui, là. Mon Dieu, j'entendais Philippe Couillard là, souffler sur les braises de l'intolérance.
C'est vraiment mon temps. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, puis m'a touché, puis j'ai été privilégié de le faire, mais tu sais, quand t'es député 5 ans dans Saint-Michel, j'ai eu la chance d'habiter là. Je vous conseille d'aller vous promener dans
Non, il y a des gens...
On comprend bien des affaires.
Mais il y a des gens aussi qui ont fui leur pays à cause des intégristes religieux, qui en ont plein le dos de la religion, puis ils viennent se réfugier au Québec. Moi, ce qu'ils m'ont ce qu'ils m'ont dit, ces gens-là, c'est qu'on arrive ici, on pense avoir la paix, puis on les voir tonter, nous écœurer, puis revendiquer des affaires. On veut juste la paix, puis s'intégrer à la société québécoise. Il y a ça aussi dans la laïcité.
Oui, je comprends, mais la phase que vous puis moi, vous savez bien, on n'a pas la même opinion là-dessus.
Je n'avais pas remarqué. je me suis toujours demandé, David Hortel, puis je pense que je l'avais posé comme question aussi. Vous étiez PDG de la Régie des installations olympiques. Vous l'écrivez dans le livre que les médias puis vos amis vous ont dit, reste donc là, t'es compétent là. Vous étiez bon à la Régie des installations olympiques. Puis là, vous ramassez en politique, vous vous ramassez en environnement où vous connaissez pas grand-chose.
Ben, pas grand-chose. J'avais quand même pratiqué en droit de l'environnement, mais c'est sûr que c'était pas, disons, mon domaine de prédilection. Puis c'est ça aussi qu'il faut comprendre quand on va en politique. C'est que même si on aspire, évidemment, quand on va en politique, c'est en politique provinciale, on aspire, évidemment, à être choisi puis à devenir ministre. Mais une chose, c'est qu'on ne devient pas nécessairement ministre dans ces domaines. Et ça, ce qui arrive, c'est que bon, il y a une courbe d'apprentissage qui est très prononcée. Puis c'est vrai que quand j'étais PDG du Parc olympique, j'avais une magnifique équipe.
Ça allait bien, vos affaires.
On travaillait à relancer le Parc olympique. Ouais. On en avait parlé à l'époque. Puis ça reprenait du galon. Puis ça, tu sais, on travaillait avec la communauté. Puis ça allait bien, oui. Mais en même temps, j'ai toujours eu cette espèce de passion de servir, puis de la politique, puis tu sais, avoir la chance de servir, puis ça m'a séduit, puis le service politique, je trouve ça important. C'est important pour notre démocratie de pouvoir de servir quand on en a l'opportunité. J'ai été séduit par ça, puis
mais sur l'ego, là,
je regrette pas, hein.
Sur l'ego, être ministre, puis vous décrivez comme c'est quoi le processus là, de la nomination ministérielle. C'est vraiment intéressant où vous êtes enfermé dans un donjon avec des chaînes aux pieds. mais sur l'ego, David Hortel, être ministre, c'est bon aussi.
Ah, c'est parce que l'ego, on en mange toute une volée aussi, là. Tu sais, pour l'ego, c'est qu'au début, évidemment, c'est sûr qu'être nommé ministre, c'est quelque chose, puis il y a justement tout un cérémonial autour de ça, puis c'est quand même quelque chose de très spécial, très privilégié, mais en même temps, de la minute qu'on devient ministre, on devient une cible.
Ouais.
Et l'ego en prend pour son rhume, parce que on est critiqué, puis c'est directement, c'est soi-même, tu sais, c'est ma face sur le poteau.
C'est ça.
C'est moi personnellement qui est attaqué. Tu sais, vous, quand vous faites vos célèbres critiques, ben, vous dites, bon, Hortel, c'est un ci, Hortel, c'est un ça. Fait que quand tout le monde commence, tu sais, oui, on essaie de se bâtir une carapace, mais c'est pas toujours facile.
Ouais.
Et c'est pas toujours évident quand c'est soutenu, c'est maintenu. Puis faut gérer ça. Faut gérer ça avec son entourage, son équipe, ses proches. C'est quelque chose, tu sais, quand par exemple, t'as quelqu'un de ta famille, hey, as-tu entendu ce que Dutrisac a dit sur toi hier? Puis là, tu sais, puis là, c'est quelque chose de rough. Ça rentre dans le corps. Puis aussi, ça montre aussi la politique, ça force un examen de qui on est. Parce que, tu sais, toutes nos bibittes personnelles, on les voit, sont présentes, elles reviennent à la surface. Alors, faut travailler là-dessus, et on apprend sur soi-même, mais on apprend sur le tas.
En page 4, là, il nous reste peu de temps, David Hortel, là, mais en page 4, vous dites, David Hortel a traversé, ou votre éditeur écrit, son lot de crises, fait des gaffes et des bons coups. Mais aujourd'hui, je suis sorti, là, j'ai vérifié, puis il y avait un article dans le Journal de Montréal, là, les 4 gaffes de David Hortel, là. On parlait on n'a pas le temps de passer à travers, là, mais les forages à Kakuna, l'élargissement de l'autoroute Laurentienne, que ça coûte moins d'un café par semaine, là, la bourse du carbone, puis l'eau potable de Montréal en péril. C'est vrai qu'on vous a à l'œil. Avez-vous de la sympathie ou de l'empathie pour les ministres actuels?
Beaucoup. Beaucoup. Tu sais, comme par exemple, moi, j'ai eu beaucoup de pensées pour Marie-Chantal Chassé, qui a été ministre de l'Environnement là, pendant 83 jours.
Ouais.
Je la connais pas. Présentement, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, là, qui reçoit des invectives, là, qui se fait dire, bon, parce qu'il est dans une négociation syndicale difficile, il se fait traiter qu'il déteste les femmes. Tu sais, c'est des attaques. C'est très dur. Alors, oui, j'ai de la sympathie pour n'importe qui va en politique, peu importe la couleur politique. On réalise pas à quel point c'est exigeant, on réalise pas à quel point c'est prenant.
Puis à quel point vous allez manger une volée, même si on vous applaudit le lundi, ouais. Le jeudi, on peut vous sacrer une volée.
Ben c'est ça, puis le lundi suivant, on remonte. Tu sais, l'affaire, c'est que c'est vraiment des montagnes russes. Tu sais, puis oui, j'ai eu des moments difficiles, j'ai eu aussi des bons moments, j'ai bien fini. Puis au net, c'est une expérience extraordinaire, mais ouais. Je crois que pour notre démocratie, c'est important de mieux comprendre comment ça fonctionne, puis aussi comment on peut l'améliorer, puis comment on peut aller de l'avant, mais c'est quelque chose qui est vraiment une expérience qui n'a pas ses comparables ailleurs.
J'imagine, hein? Alors, dernière affaire, sur une échelle de 1 à 10, là, faites-moi plaisir, jouez le jeu, là, David Hurtel, vous vous donnez combien comme ministre?
Comme ministre, me donne un
7.5. 7.5, OK. Ouais. Et à Philippe Couillard comme premier ministre?
Moi, je lui donne un 7.58.
Ouais. 7.58, OK. Ouais. Vous êtes un loyal, hein?
Oui, oui. Ouais. Je suis très loyal, puis ça, c'est quelque chose, oui. Oui, je suis loyal, puis je trouve que, bon, on va laisser le temps passer, mais je crois qu'on va réaliser que ce gouvernement-là a quand même fait des choses assez extraordinaires.
Bon, OK, ça va pour l'info pub, là.
Vous m'avez ouvert la porte.
Alors, est-ce que Montréal est une ville francophone, oui ou non?
C'est une ville francophone, oui.
Ça s'arrête là, hein? Alors, quand vous allez vous présenter à la mairie, c'est la première affaire que vous allez dire?
C'est une ville francophone, mais qui a également le luxe d'avoir aussi un volet anglophone très important et aussi le luxe incroyable d'avoir des dizaines et des dizaines de cultures différentes qui contribuent. Mais c'est l'ensemble qui fait la richesse de Montréal. Faut pas diviser, mon cher.
Ben non, absolument pas. L'idée, c'est pas de diviser. L'idée, c'est de savoir qui on est, par contre.
Ben nous sommes le résultat de notre histoire, puis notre histoire, c'est un ensemble. Puis oui, nous sommes une ville francophone, mais faut pas nier le fait aussi qu'on a une facette anglophone très importante qui contribue également.
Alors, vous me jurez sur la tête des installations olympiques, là, vous ne vous présentez pas à la mairie de Montréal.
C'est pas quelque chose que je considère à l'heure actuelle. Je suis très flatté. Regardez, je suis Montréalais, je suis né à Montréal, à Montréal, je travaille, puis je vis là. Il y a beaucoup de divisions présentement, il y a beaucoup de défis, Montréal a besoin de beaucoup d'amour, mais pour le moment, c'est pas quelque chose qu'on se considère.
Eh ben, c'est comme le début d'un discours, ça, d'acceptation.
Chasse le naturel, hein.
Oui, sacrament qui revient au galop. Journée de ministre, David Hurtel, aux éditions VLB, c'était vraiment une bonne lecture. Merci, M. Hurtel, bonne chance.
Merci beaucoup, M. Dutrisac.
Salut.